Je vous invite à vous lever et on va invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons de ce que nous pouvons encore venir écouter ta parole, prêcher ta parole en toute liberté. Merci Seigneur de nous avoir encore donné une semaine de vie et nous te prions Seigneur Jésus que ta volonté soit faite et non pas celle des faux prophètes. Au nom de Jésus-Christ mon Dieu, nous te bénissons pour cette belle journée, pour ta parole, pour nos cœurs qui sont prêts à l'écouter, à l'entendre et à nous réjouir de la bonne nouvelle de notre Sauveur, de notre Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va ouvrir nos Bibles dans... On va faire plusieurs lectures. Dans Jean chapitre 5 pour commencer. Et... au verset 27 à 30, Jean 5, 27 à 30, je crois que c'est ça, oui. Dieu lui a donné, c'est Jésus qui parle, le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme, c'est-à-dire fils d'Adam. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. On va faire une autre lecture dans Jean 6, 38. Déjà 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Ensuite, Jean 7, 27, 30. C'est encore Jésus qui parle. Cependant, celui-ci, nous savons... non, c'est-à-dire que là, c'est pas ça. J'en sais, 27, 30... Oui, c'est donc sont les gens qui parlent et qui disent « Celui-ci, nous savons qui il est, d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Vous voyez, ils étaient très intelligents. Ils connaissaient bien les Écritures encore, hein, ceux-là. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria « Vous me connaissez ?» Et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et puis un dernier texte dans Jean, chapitre 8, versets 28 et 29. Jean 8, 28, 29. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc sur la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Alors, c'est bizarre, c'était pas ça que je voulais lire. J'ai dû me tromper dans mes références. Je voulais vous lire le passage où Jésus dit, puisque c'est comme ça, levons-nous et partons. Vous ne vous rappelez pas où c'est ? Moi, j'ai marqué 8, 28, 29, ça a pourtant l'air d'être ça. Et vous vous rappelez ce passage où Jésus dit, puisqu'il en est ainsi, levons-nous et partons. Enfin, vous vous rappelez bien que ce texte existe. Hein ? Eh bien, nous aussi, levons-nous et partons. Tout au long de sa vie, Jésus a fait la volonté de son Père. Et dans Jean 14, Jésus sait que le dominateur de ce monde est déjà en marche contre lui. Et, ah voilà, c'est là, c'est dans Jean 14, 14-31, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Et donc, comme Jésus savait que le dominateur de ce monde est déjà en marche contre lui, alors il dit, partons d'ici. Il sait, Jésus sait, qu'il ne va pas pouvoir enseigner encore beaucoup ceux qui sont avec lui là sur la terre. Nous savons, nous avons, grâce aux apôtres, grâce à leur fidélité, grâce au fait qu'ils ont écrit ces choses, nous avons beaucoup d'enseignements que Jésus nous a donnés. Et ce que le Nouveau Testament contient n'est pourtant qu'une partie de ce que Jésus a dit. La Bible elle-même dit ça, n'est-ce pas? Il ne contient pas tous les renseignements, tous les points de doctrine jamais révélés, le Nouveau Testament. Il ne contient pas tout. Mais nous y trouvons la doctrine requise pour notre salut. C'est ça le principal, mes frères et sœurs. C'est ça le principal. Et de toutes les leçons que nous apprenons du Sauveur, aucune n'est plus claire, aucune n'est plus marquante que la leçon de l'obéissance. Il a obéi à son Père. Tous les textes qu'on vient de lire là ce matin, sont des confessions de Jésus qui dit qu'il est venu pour se soumettre, pour faire la volonté du Père. Voyez, il nous a donné un exemple non seulement du pourquoi de l'obéissance, mais du comment nous pouvons obéir. Et ça, c'est très important parce qu'on peut savoir pourquoi, mais si on ne sait pas comment, on est des fois très embêté. Et ce matin, on va examiner quelques exemples tirés du ministère du Sauveur, des exemples qui vont nous aider à réfléchir. Parce que Dieu nous a donné une tête, c'est pas seulement pour mettre un chapeau dessus, hein. Camilla, elle disait ça tout le temps. Dieu t'a pas donné une tête que pour mettre un chapeau dessus, mais pour réfléchir. Et ces exemples vont nous aider à réfléchir à la manière dont nous devons fixer notre ligne de conduite dans cette vie de fils et de filles de Dieu. La question, c'est toujours, mais quelle est la volonté de Dieu? Il semble que Jésus connaissait la volonté de Dieu. Il dit, je suis venu pour obéir, pour faire la volonté de Dieu. Donc il la connaissait. Et nous pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Oui, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Sinon, comment pourrions-nous la faire? Et Jésus dit, c'est ceux seulement qui font ma volonté qui seront sauvés. Donc c'est très important de connaître qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus nous a enseigner dans un langage qui est simple, qui est facile, même, je crois qu'il y a quelqu'un au portail, mais c'est peut-être un dissident, oui. Un langage simple et facile à comprendre. Il a dit tout simplement, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Voilà. C'est pas compliqué, c'est dans Jean 14, 15. Et il a dit aussi, dans Luc 18, 22, viens et suis-moi. C'est-à-dire qu'on doit marcher à sa suite. C'est-à-dire ce qu'il a dit aussi, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et ce qu'il fait, nous devons le faire. Et voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Si on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'on doit faire. Non? Ben voilà, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour lui être obéissant? Si on regarde sa vie, observons sa vie. Un jour, Joseph et Marie perdent Jésus dans la foule, enfin bon. Et il le retrouve dans le temple en train d'obéir à son père, parce que il est en train d'enseigner dans le temple et il dit à Joseph et à Marie, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais comme il n'a que 12 ans, eh bien, il s'est soumis à son papa et sa maman, il est sorti du temple, il les a suivis, il est rentré à la maison. Voyez, c'est formidable. Il y a des priorités, il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui doivent, s'ils ne sont pas majeurs dans les choses de la foi, ben voilà, même s'ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils prêchent, qu'ils enseignent, ben non, c'est pas encore le moment. Tu dois rentrer à la maison et te soumettre à papa-maman. Hein, tu peux avoir 50 ans et ne pas être majeur spirituellement. Là, c'est un exemple pour nous montrer que Jésus, quand il obéissait, il y avait des niveaux. Il savait qu'il devait s'occuper des affaires de son père, mais il savait aussi que papa-maman, il faut obéir. Plus tard, on va trouver Jésus qui se rend dans le désert pour aller voir Jean le baptiseur. Maintenant, j'ai décidé, je dis plus Jean le Baptiste, je dis Jean le baptiseur. ou je pourrais même dire Jean l'immergeur dans l'eau. Et la Bible nous dit, bien qu'il était sans péché, il s'est fait baptiser par Jean pour, et il le dit, accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce que c'est qui est juste? Alors dans 2 Néphi 31, 4, 7, il est écrit, « Et maintenant, si l'agneau de Dieu, qui est saint, a besoin d'être baptisé d'eau pour accomplir tout ce qui est juste, oh, alors à combien plus forte raison nous, qui ne sommes pas saints, avons-nous besoin d'être baptisés ?» Oui, d'eau. Et maintenant, je voudrais vous demander, mes frères bien-aimés, en quoi l'agneau de Dieu a accompli tout ce qui est juste en étant baptisé d'eau? Ne savez-vous pas qu'il était saint? Mais malgré qu'il soit saint, il montre aux enfants des hommes que, selon la chair, il s'humilie devant le Père et témoigne au Père qu'il lui obéira en gardant ses commandements. Jésus s'humilie devant le Père en présence des hommes par obéissance, parce que ce qui est juste, mes frères et sœurs, c'est d'être humble, et c'est d'obéir, de se tenir à sa place, d'obéir. Lui, il savait qu'il était saint. Les autres, qu'est-ce qu'ils en savaient? Donc, pour rendre un témoignage juste, il s'est humilié. Ah, ça c'est quelque chose de très fort. Ensuite, regardons Jésus dans le jardin de Gethsémané. Là, il y a une grande erreur dans beaucoup de dénominations. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé vraiment. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus était en train de faire une hémorragie interne. Il avait du sang qui sortait par les pores de sa peau. En fait, le diable était en train de le tuer là et en train de lui faire boire la coupe de la mort. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, quand vous receviez l'ordre de boire la coupe, ça veut dire que vous deviez vous suicider. C'était comme ça, c'est historique, hein, vous lisez l'histoire romaine, vous apprendrez ça. Et Jésus aurait pu boire cette coupe, c'est-à-dire cette coupe que Satan lui donnait, et puis mourir là, comme un anonyme, dans le jardin de Gethsémané. Et il n'avait plus la force pour lutter, il était accablé physiquement, moralement, psychologiquement. Alors il prie son père d'éloigner cette coupe de mort qui vient du diable. C'est ça qu'il est en train de demander. Il ne se sentait plus la force ni la volonté de lutter contre cette mort qui l'agressait. Il n'avait même plus la volonté, c'est pourquoi il dit que, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il était prêt de baisser les bras, prêt d'abandonner la lutte parce qu'il se vidait de son sang, parce qu'à l'intérieur, quand quelqu'un fait une hémorragie interne, là en général, je pense que ce qui lui est arrivé, c'est que l'aorte, sous la pression qu'il avait, a sauté et son sang s'est répandu en lui, avec le diaphragme et toutes ces choses, il a commencé à suer, le sang sortait et il était tellement affaibli qu'il n'avait plus la volonté, la force de lutter. Alors, dans un dernier cri, il s'est confié au Père et il dit « Mon âme est accablée de tristesse. » Il dit « D'une tristesse mortelle. » Tout ça dans Parole vivante. « Oh mon Père, si c'est possible que cette coupe de souffrance me soit épargnée, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Parce que la sienne, c'était de se laisser aller. Il n'en pouvait plus. Littéralement, si vous avez une Bible d'étude, Jésus dit, « Mon Père, que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » C'est-à-dire que je ne meurs pas là, mais que je meurs sur la croix. Parce que la volonté du Père, c'était qu'il meure sur la croix, et non pas au jardin. Mais là, il était en train de mourir dans le jardin. La volonté du Père, c'était qu'il donne sa vie sur la croix à Golgotha. Et Dieu empêcha, le Père empêcha Jésus de mourir dans le jardin. Et il nous est dit dans Luc 22, 43, c'est pourquoi c'est bon de lire tous les évangiles, parce que tout n'est pas dans un évangile. Il faut regarder dans tous les évangiles pour avoir tout le relief. Dans Luc 22, 43, c'est écrit que Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier, pour lui donner de la force, parce qu'il n'en avait plus. Parce qu'il était au bout du rouleau. Il était en train de mourir là dans le jardin. Et Jésus a pu lutter contre la mort qui venait le chercher là dans ce jardin, et il a pu encore résister à tout le jugement, à tous les coups de fouet, à porter sa croix, parce qu'un ange l'a fortifié. Jésus a été exaucé dans le jardin de Gethsémané. Dieu a enlevé la coupe. Parce que Jésus voulait obéir à son Père et aller sur la croix. Dans Hébreux 5, 7, il nous est dit très clairement que Jésus a été exaucé dans le jardin de Gethsémané. Voilà ce qu'il est écrit dans Hébreux 5, 7. C'est lui, donc Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez que Jésus a été exaucé au jardin quand Jésus était en train de mourir. Il a prié afin que la mort ne vienne pas le prendre là dans le jardin et il a été exaucé. Jésus ne demandait pas au Père de ne pas aller à la croix. Beaucoup de chrétiens prêchent ça, mais c'est horrible de penser que Jésus aurait pu demander une chose pareille. Père, délivre-moi, je ne veux pas aller sur la croix, j'ai peur. Mais il était venu pour cette heure-là, il l'a toujours dit. Il demande de ne pas mourir au jardin. Il le demande à grands cris, avec larmes, avec une âme terrassé par la tristesse, une tristesse mortelle, et il a été exaucé. Alors si vous êtes triste à la mort, vous pouvez encore crier au Seigneur, il va vous exaucer et vous sauver de la mort qui vous attend avant la fin de l'été. Bon. Ça, c'est une petite blague entre nous, de ceux de la communauté, parce qu'il y a un faux prophète qui a fait une prédiction disant que on allait tous mourir avant la fin de l'été. Alors, bon, nous, ça nous fait rigoler, parce que c'est pas la première fois hein, qu'on prophétise des choses comme ça. Déjà, il y a à peu près 30 ans, il s'appelait Michel Guillou. Il me téléphone un jour, puis il me dit Michel, j'ai eu un songe, j'ai vu que tu étais dans un cercueil, tu étais mort. Ah, je dis, bah dis donc, c'est super, alors qu'est-ce que je peux y faire? Je dis, ouais, alors écoute, ta vision, tu la gardes pour toi. Je n'en tiens pas compte, c'est de la gnognotte évangélique pentecôtiste d'excité déséquilibré. Puis vous voyez, plus de 30 ans après, je suis encore là. Puis lui, je sais pas où il doit être dans un hôpital psychiatrique, je pense. Bon, il a été exaucé parce qu'il voulait obéir. Jésus voulait obéir. Il voulait aller à la croix. Relisez bien Hébreux 5, 7, vous allez avoir la révélation de cette chose-là. Alors il mourut sur la croix pour obéir à son Père. Car, comme il l'avait dit, je suis venu pour cette heure. Pour quelle heure? Pour l'heure de la croix, c'était ça. C'était le summum de son œuvre. C'était de prendre nos péchés sur lui à la croix, pas dans le jardin. Et il dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Parce que, on pourrait penser, voilà, ce pauvre Jésus s'est fait. Moi, je pensais ça quand j'étais pas converti. Hein, ce pauvre Jésus qui faisait tant de miracles, il s'est fait prendre par une bande de Romains. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Pourquoi est-ce qu'il les a pas terrassés? Parce qu'il a donné sa vie. Il pouvait très bien. Il faisait ça avec ses doigts et puis il tombait tout serait de mort, les pauvres Romains. Ils sont fous, ces Romains. Il l'a donné pour obéir au Père. Par obéissance, le Sauveur a expié nos péchés. Il a rendu possible notre résurrection par son obéissance. Par son obéissance, il a préparé le chemin pour que nous retournions au Père éternel, parce que nous allons y retourner, nous n'allons pas y aller, nous allons y retourner, nous y étions déjà dans le passé éternel. Car Jésus savait que dans notre condition mortelle, eh bien, nous allions commettre des fautes, alors que on est en train d'apprendre ici l'obéissance afin de nous parfaire, afin de pouvoir être exaltés auprès du Père quand nous retournerons vers lui. Mais Jésus savait très bien que pendant ce temps d'apprentissage ici-bas, on allait commettre des fautes. C'est pourquoi il est venu pour expier nos fautes, pour les enlever, afin que nous soyons sans tache ni ride. Est-ce que vous croyez que vous êtes sans tache ni ride? Alors, quelqu'un va dire, mais c'est de l'orgueil. Non, non, c'est de la foi. Parce que nous croyons que Jésus a tout fait pour cela. Alors, lorsque nous obéissons, nous prouvons que nous croyons dans son sacrifice. Que nous croyons que par l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être sauvés quand nous obéissons. La foi elle nous rend obéissants. La foi ne sert pas que à guérir les malades, à acheter une voiture, ou que sais-je, comme c'est aujourd'hui la mode un peu dans toutes ces églises, voilà, bizarres, où on, la foi, ça sert qu'à, c'est un peu, voilà, un truc de marchand du temple. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous obéissons, mais nous obéissons parce que nous sommes sauvés, et il nous en a donné le pouvoir. Avant, on pouvait pas. On pouvait pas. Et Jésus est mort, et étant mort, même mort, il obéit. Il est toujours obéissant à son Père, même mort. Il est allé en esprit, dans le monde des esprits, et là, il a organisé l'œuvre missionnaire dans le séjour des morts. C'est écrit qu'il est allé prêcher dans le séjour des morts, dans 1 Pierre 3, 18, 20, et en Pierre, 1 Pierre 4, 6, c'est-à-dire juste quelques versets après, il nous est dit qu'il est allé prêcher l'évangile afin que ceux qui étaient là dans le séjour des morts, après avoir été jugés quant à la chair, puissent vivre selon Dieu par l'Esprit. C'est-à-dire, voilà, il a été encore sauvé des gens là. Il a organisé l'œuvre missionnaire dans le séjour des morts. Il avait dit, il y a encore des gens dans une autre bergerie, il faut que j'aille les chercher, ils entendront ma voix. Les chrétiens pensent que c'est... L'autre bergerie, ils pensent que c'est les non-juifs. Mais non, c'est pas les non-juifs. Les non-juifs n'ont pas entendu la voix de Jésus, ils ont entendu la voix des apôtres. Mais là, dans le séjour des morts, ils ont entendu la voix de Jésus. Ils ont eu la visite de Jésus. Il faut comprendre un peu les Écritures, comprendre ce qu'elles disent. Et aujourd'hui, il continue encore à obéir à son Père. Il est ressuscité et il bâtit son église. C'est lui, il obéit à son Père en bâtissant son église. Il l'a fait passer par les sept âges qui sont décrits dans Apocalypse 2 et 3. Il dirige son église au travers des cinq ministères. Il rétablit ce qui doit être rétabli. Il émonde son église. Tout ça, c'est par obéissance qu'il le fait. C'est pas toujours par gaieté de cœur. C'est pas toujours facile pour lui. Mais il obéit. Toutes ces choses qui ont été perdues durant les sept âges de l'Église, il est en train de les rétablir par obéissance à son Père. Il a envoyé la pluie de la première saison à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Vous avez tous lu ça dans Actes chapitre 2. Et puis ensuite, il a envoyé la pluie de l'arrière-saison, comme autrefois, mais de nos jours. Vous trouvez ça dans Joël 2, 23. Il a de nouveau répandu son esprit sur toute chair. Et ça, il l'a fait par obéissance. C'était prophétisé par Joël, c'était annoncé. Et il l'a fait. Et il nous a donné l'abondance. Vous lirez le texte, vous verrez. Et il remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle, le jekel, le hasil et le gazam. Il a remplacé tout ça. Toutes ces sauterelles, ces machins, ces bestioles, tout ça, ça représente les dénominations chrétienne, comme le catholicisme, le protestantisme, le baptisme, le pentecôtisme, enfin toutes ces grandes religions chrétiennes qui ont négligé la parole de Dieu, ils ont laissé tomber des grands passages des Écritures, comme le baptême à la place des morts, comme les mariages éternels, comme beaucoup de choses. Et Jésus, lui, il est venu pour obéir au Père. Il obéit au Père en rétablissant toute chose, tout ce qui avait été dévoré par ces bestioles, c'est-à-dire par les religions incrédules. C'est quand même étonnant de voir que les religieux incrédules sont considérés par Dieu comme des sauterelles, des jekels, des asiles, des gazams. C'est toutes des bestioles nuisibles. Hein? On le sait. Les sept plaies d'Égypte, c'était quoi? Hein? C'était pas des moutons, c'était des sauterelles. C'est des nuisibles, ces religieux. Alors, et c'est ces religieux-là qui ont enlevé ces paroles. Vous voyez, Jésus est dans l'obéissance à son Père, qu'il soit avant son incarnation, pendant sa mort et après sa résurrection, il est toujours dans l'obéissance. Et ses frères et sœurs sont ceux qui lui obéissent. Il l'a dit, mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui m'obéissent, c'est pas les autres. C'est pas qu'il les aime pas. Mais bon, voilà quoi, ils obéissent pas. C'est ceux qui font sa volonté, ceux qui font ce qu'il veut aujourd'hui. La volonté de Dieu, c'est pas que vous alliez mourir sur une croix. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez dans le rétablissement, parce que c'est ça, la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le rétablissement de toutes choses. Alors, son retour est proche, toutes les églises le disent, toutes les églises le savent, il y a des eschatologues comme Pierre Gilbert et beaucoup d'autres qui parlent de ça, Jésus revient, c'est la fin, pas du monde, mais la fin du système, la fin de l'église sur la terre, Jésus revient bientôt. Mais il nous est dit dans Actes chapitre 3, 21 qu'il ne viendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Comment se fait-il qu'ils ne veulent pas du rétablissement de toutes choses? Comment ça se fait? C'est quel esprit mauvais qui les dirige comme ça? Qu'ils rejettent tout ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont une bande d'incrédules. L'obéissance au temps de Luther, c'était pas la même qui était exigé au temps de Wesley. Au temps de Wesley, il y avait plus d'exigences parce qu'il y avait plus de révélations. Et aujourd'hui, Jésus exige bien plus de nous qu'il n'exigeait aux chrétiens du temps de Luther ou de Wesley ou même de Branham. Il exige bien plus. Alors, il obéit. Alors, j'obéirai. Amen.
Amen.
Il obéit. Alors, j'obéirai. Amen.
Amen.
Alors, ainsi dit le Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga, le Christ, le Seigneur. Oui, je le suis, le commencement et la fin, le rédempteur du monde. J'ai accompli et mené à bonne fin la volonté de celui dont je suis, c'est-à-dire le Père, à mon sujet, l'ayant fait pour me soumettre toute chose. Je conserve tout pouvoir, oui, jusqu'à détruire Satan et ses œuvres à la fin du monde, et au grand et dernier jour du jugement que je prononcerai sur ses habitants, jugeant chaque homme selon ses œuvres et ses actes, les actes qu'il aura accomplis. Et assurément, chaque homme doit se repentir ou souffrir, car moi, Dieu, je suis infini. Alors, ainsi te dit le Seigneur, cache ces choses aux bébés. Ne leur parle plus de ce que je te donne avant que je ne juge que c'est le moment. Car ils ne peuvent pas supporter la viande maintenant. C'est du lait qu'ils doivent recevoir. C'est pourquoi ils ne doivent pas connaître ces choses de peur qu'ils ne périssent. Apprends de moi, écoute mes paroles, marche dans l'humilité de mon esprit et tu auras la paix en moi. Je suis Jésus-Christ, je suis venu par la volonté du Père et je fais sa volonté. Alors si lui fait sa volonté, moi aussi je vais obéir. Allons-nous obéir?
Oui.
Alléluia, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ceux qui acceptent d'obéir avec foi et qui pratiquent la justice, c'est-à-dire ce qui est juste, qu'est-ce qui est juste aujourd'hui? Est-ce que c'est de construire une arche de Noé? Non, monsieur, c'est pas de construire une arche de Noé. Qu'est-ce qui est juste aujourd'hui? Ceux qui acceptent d'obéir et de faire ce qui est juste, ce qui est établi par Jésus, ce qui est ordonné par Jésus, eh bien, par Jésus qui obéit lui-même au Père, ceux-là recevront une couronne de vie éternelle. Je vous demanderai maintenant, on va se lever, on va fermer les yeux et vous allez écouter ce que le Seigneur a à dire en cette fin du mois d'avril 2015. On va se lever et c'est la lecture que je vais vous faire de ce que le Seigneur a à nous dire en ce moment. Fermez les yeux, pensez au Seigneur. Pour ceux qui s'endurcissent le cœur dans l'incrédulité et rejettent la vérité rétablie, cela tournera à leur condamnation, car le Seigneur Dieu l'a dit. Et nous, les anciens de l'Église, nous avons entendu et rendons témoignage des paroles de la majesté glorieuse d'en haut, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Et tout le monde dit Amen.
Amen.
Nous savons par ces choses qu'il y a un Dieu au ciel, qui est infini et éternel, le même Dieu immuable d'éternité en éternité, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, et qu'il a créé l'homme, homme et femme, qu'il les a créés à son image, selon sa ressemblance. Il leur donna le commandement de l'aimer et de le servir, lui, le seul vrai Dieu vivant, et de l'adorer lui seul. Mais en transgressant ces saintes lois, l'homme devint sensuel et diabolique et devint l'homme déchu. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant donna son Fils unique, comme le disent les Écritures, qui ont été données par lui. Il a subi des tentations,
mais il n'y prêta pas attention. Il fut crucifié, mourut et ressuscita le troisième jour, et il monta au ciel pour s'asseoir à la droite du Père pour régner avec toute puissance selon la volonté du Père, pour que tous ceux qui croiraient seraient baptisés en son nom et persévéreraient avec foi jusqu'à la fin, fussent sauvés. Afin que non seulement ceux qui crurent lorsqu'il fut dans la chair au midi du temps, mais aussi tous les hommes depuis le commencement, c'est-à-dire tous ceux qui furent avant sa venue, qui crurent aux paroles des saints prophètes, lesquels parlèrent selon qu'ils étaient inspirés par le don du Saint-Esprit, qui témoignèrent en vérité de lui en toutes choses, eussent la vie éternelle, ainsi que ceux qui viendraient ensuite et qui croiraient aux dons et aux appels de Dieu par le Saint-Esprit, qui rend témoignage du Père et du Fils. Lesquels Père et Fils et Saint-Esprit sont un seul Dieu, infini et éternel, sans fin, et tout le monde dit Amen.
Amen.
Et nous savons que tous les hommes doivent se repentir, croire au nom de Jésus-Christ, adorer le Père en son nom, et persévérer jusqu'à la fin dans la foi en son nom, sinon ils ne peuvent être sauvés dans le royaume de Dieu. Et nous savons que la justification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable. Et nous savons aussi que la sanctification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable pour ceux qui aiment et servent Dieu de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toute leur force. Mais il est possible que l'homme déchoie de la grâce et se détourne du Dieu vivant. C'est pourquoi que l'Église prenne garde et prie toujours de peur de tomber en tentation. Oui, et que même ceux qui sont sanctifiés prennent garde aussi. Et nous savons que ces choses sont vraies et conformes aux révélations de Jean, sans rien enlever des Écritures qui ont été données par lui. Il subit des tentations, mais n'y prêta pas attention. C'est vrai, ce sont des paroles conformes aux révélations de Jean, sans rien ajouter ni retrancher à la prophétie de son livre, aux saintes Écritures ou aux révélations de Dieu qui viendront plus tard par le don et la puissance du Saint-Esprit, la voix de Dieu ou le ministère des anges. Et le Seigneur Dieu l'a dit, et qu'honneur, puissance et gloire soient rendus à son saint nom maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Chers frères et sœurs, nous devons chercher la sagesse. Parce que la sagesse, elle est pluridimensionnelle. C'est-à-dire que elle se présente sous différentes tailles, différentes couleurs. Il y a la sagesse pour savoir se comporter avec les uns et les autres, mais il y a la sagesse aussi pour pouvoir se comporter face à Dieu. C'est pas tout à fait la même chose. Nous avons des devoirs envers Dieu. Nous en avons envers les hommes, nous en avons envers les animaux, envers la nature. Vous voyez, c'est pluridimensionnel. La sagesse acquise dans un domaine ne peut pas être utilisée dans un autre. C'est sûr qu'un beau parleur, quelqu'un qui fait les foires et qui harangue le client, sera peut-être plus à même de prêcher que quelqu'un qui est timide. Mais c'est très souvent le contraire. Parce que l'homme qui est doué de ce côté-là peut le faire par la chair, être inefficace quant à l'esprit. Donc la sagesse acquise dans un domaine ne peut pas être utilisée dans un autre domaine, vous comprenez ? C'est quelque chose, c'est pluridimensionnel. Il nous faut être ouvert à toutes ces sagesses. La sagesse du monde, elle est très précieuse, la sagesse du monde, à bien des égards. Mais elle a bien plus de valeur quand elle s'incline humblement devant la Seigneurie de Jésus-Christ et sa sagesse. La sagesse du monde, qui mène au succès, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont stupides et qui ne connaissent pas les lois du succès et puis qui n'en veulent pas même, qui préfèrent vivre n'importe comment, bêtement, et puis voilà. Donc, mais il y a des lois, il y a de la sagesse du monde qui mène au succès, mais la sagesse du monde qui mène au succès doit être prête à céder le pas à la sagesse de Dieu. Toujours. Elle ne doit pas penser, vous ne devez pas penser que la sagesse du monde peut remplacer la sagesse de Dieu. Mais ça veut dire que, ça veut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde? Alors pourquoi vous mangez des frites? Vous aimez les frites, non? Ben c'est dans le monde. Bon ben c'est pour tout la même chose. Il y a des bonnes choses, mais il faut faire attention. Il faut être sage. Il faut être sage. Ceux qui sont sages, ils reçoivent la vérité. Parce qu'ils ont pris le Saint-Esprit pour guide. Et ils ne sont pas trompés. Et en vérité, ils ne seront pas abattus, mais ils supporteront le grand jour. Ils supporteront le grand jour. Parce qu'ils seront enlevés. Si vous êtes obéissants, mes frères et sœurs, si vous priez, si vous cherchez la sagesse, vous la recevrez et vous mènerez une bonne vie. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, je te demande de bénir mes frères et sœurs, de bénir aussi ceux qui nous aiment pas, de permettre qu'ils puissent comprendre qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils doivent être humbles et arrêter de se prendre pour ta bouche, mais qu'ils se mettent à faire des œuvres qui prouvent leur foi. Merci Seigneur Jésus de bénir chacun de mes frères et sœurs, en particulier ceux qui sont dans une tristesse et dans un abattement à cause de tout ce qui arrive. Je te prie Seigneur de les relever, de les fortifier, de leur donner bon courage, qu'ils ne se laissent pas abattre. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus-Christ et notre délivrance approche. Sois béni mon Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.